Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va?
Eh bien, toujours dans l'esprit.
Très bien. Alors, on continue, si tu veux, notre lecture du catéchisme. Au 688, on nous signale plusieurs lieux où nous trouverons des signes de l'Esprit-Saint. Est-ce que tu pourrais nous faire la lecture de cette liste?
Alors oui, et pensez surtout que ignorer les éléments qui seraient donnés dans cette liste, c'est ignorer le Saint-Esprit. On nous dit d'abord que les Écritures sont inspirées par l'Esprit-Saint. Donc ignorer les Écritures, c'est ignorer l'Esprit-Saint. Ensuite, on nous dit que l'Esprit-Saint est dans la tradition. Donc, ignorer la tradition, c'est ignorer l'Esprit-Saint. Je crois qu'il y a beaucoup à méditer sur ce point. Ensuite, que dans le magistère de l'Église, le Saint-Esprit assiste l'Église, et donc ignorer le magistère, c'est ignorer l'Esprit-Saint. Ensuite, dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, l'Esprit-Saint nous met en communion avec le Christ. Donc, ignorer la liturgie sacramentelle, ne pas y être présent, sécher la messe, eh ben, c'est d'une certaine manière ignorer le Saint-Esprit. Dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, ne pas prier, c'est ignorer le Saint-Esprit. Voyez. Dans les charismes et les ministères dans lesquels l'Église est édifiée, poursuit le catéchisme toujours au numéro 688, eh bien, ignorer les charismes et les ministères qui sont conjoints, on ne peut pas séparer les uns les autres. Saint Irénée d'ailleurs dit même que la hiérarchie, c'est un charisme, au sens de don de Dieu. Maintenant, on les distingue pour bien montrer ce qui est stable, les ministères et les charismes qui peuvent être plus, je dirais, à temporalité variable. On peut donner un charisme pour un temps, et puis après, ce temps peut s'arrêter, alors que les ministères sont toujours stables comme un caractère, le caractère baptismal, le caractère sacerdotal, presbytéral, épiscopal, etc., sont des caractères stables. La confirmation donne un caractère stable. Et de ce point de vue, il y a donc des fonctions stables. Le sacerdoce commun, c'est stable. Eh bien, ignorer ces charismes et ces ministères, c'est ignorer le Saint-Esprit. Et puis, les signes de vie apostolique et missionnaire, en particulier les miracles, et puis tout ce qui sont les prodiges du Saint-Esprit, les signes que Dieu donne sans cesse dans son Église, eh bien, les ignorer, c'est ignorer le Saint-Esprit. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de ce que fait le Saint-Esprit. Quand il y a une béatification, on affirme qu'il y a eu un miracle. Quand il y a eu une canonisation, qu'il y a eu deux miracles. Et je connais beaucoup de gens qui n'écoutent même pas ces signes. Comment peuvent-ils être fidèles au Saint-Esprit? Puis, une dernière mention, excuse-moi, pour arriver à la huitième. Dans le témoignage des saints, où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. Effectivement, tu avais raison d'entamer tout de suite la conversation, parce que c'est un peu la même chose, le témoignage des saints, mais c'est plus seulement que des miracles post-mortem, c'est toute leur vie qui est quelque chose de saint, qui nous apporte une lumière du Saint-Esprit. Et attention, les saints peuvent très bien avoir un début de vie tout à fait en dehors du Saint-Esprit. Regardez saint Augustin, ben il avait une vie un peu de patachon, et même au niveau intellectuel, il était très marqué par des courants gnostiques, manichéens, et bon, ben un jour, il s'est converti. Et alors souvent, on accuse des hommes d'Église en remontant dans leur passé, en disant, mais qui me dit qu'ils ne se sont pas convertis? Qui me dit qu'ils n'ont pas eu un moment, un basculement, et qu'ils ont voulu justement en faire deux fois plus à cause de leur passé, qui n'était peut-être pas si beau que cela. Et saint Augustin a déployé une énergie incroyable par rapport à ce passé qui n'était pas si brillant à partir de sa conversion.
Tu fais bien de nous rappeler de garder les yeux ouverts sur l'action de l'Esprit-Saint. Parfois, on se ferme les yeux, on ne regarde pas ou on oublie de regarder. Et justement, pour aider ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous aider, par exemple, à voir cette présence du Saint-Esprit dans la liturgie sacramentelle? La messe, les confessions, les onctions des malades. Dans tous ces lieux, comment agit le Saint-Esprit?
Alors, la première chose que fait le Saint-Esprit, c'est de nous persuader que nous sommes pécheurs. Et donc, au début de la liturgie eucharistique, on commence toujours par ce que l'on appelle un temps de pénitence, un temps où on reconnaît que nous avons péché. Le pape Saint Jean-Paul II avait écrit une très belle encyclique « Dominum et vivificantem » qui était sur le Saint-Esprit. Et il disait « La première action du Saint-Esprit, c'est de nous montrer que nous sommes pécheurs. » Et de ce point de vue-là, on rejoint tout à fait d'ailleurs les textes bibliques en disant que l'Esprit nous persuade que nous sommes pécheurs. Et donc c'est la première des choses, c'est-à-dire avoir besoin d'un sauveur, avoir besoin d'un salut. Si je n'ai plus besoin d'un sauveur et d'un salut, eh ben, je m'endors complètement. Et je suis prêt à suivre le monde dans sa mondanité qui court vers sa perte. Donc le Saint-Esprit, première chose, nous fait avoir un besoin de salut, et nous le disons donc dans la cérémonie pénitentielle, au début de chaque Eucharistie. Puis le Saint-Esprit est là présent, bien sûr, dans la parole de Dieu que lui-même a inspirée. Il est là très profondément dans les prières que l'Église a inspirées à son Église, où il y a de très belles oraisons dans lesquelles il nous a appris à prier, hein, comme quand nous ne savons quoi dire, l'Esprit intercède en notre faveur. Donc il a appris aux hommes et aux femmes de l'Église à prier comme il convient. Et nos oraisons ont été bâties sous ce souffle du Saint-Esprit. Donc il faut les écouter avec révérence en disant certainement le Saint-Esprit est passé par là. Et puis, après la parole de Dieu qui est proclamée, il y a aussi l'homélie. L'homélie est un temps fort. Le prêtre a reçu une onction dans l'Esprit-Saint, et sous cette onction, donc, il a un devoir sacré de commenter cette parole de Dieu. S'il l'a fait sérieusement, il est sous l'action du Saint-Esprit. Un jour, il faut raconter de temps en temps une petite blague, et un ami prêtre avait fréquenté un groupe de prières charismatiques, et dans le groupe, on lui avait dit, mais tu sais, maintenant, quand on prêche, c'est plus nécessaire d'arriver avec un papier, il faut parler comme ça spontanément, il faut demander au Saint-Esprit. Donc le dimanche suivant, le prêtre arrive au pupitre, il lit l'évangile et puis il dit intérieurement au Saint-Esprit, bon, à toi de jouer. Et il entend une voix profonde qui lui dit, gros paresseux. Parce que, si vous voulez, il y a un travail à faire pour vivre de la tradition. Le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais dans la continuité de ce que déjà il a donné. Il y a une continuité toujours, et donc il faut, à chaque fois que l'on prêche, être témoin de cette tradition. Et donc il faut prendre du temps pour l'écouter, pour l'assimiler et pour la retransmettre. Donc le Saint-Esprit est très présent, et puis surtout, il est présent au moment de la liturgie eucharistique, quand le prêtre impose les mains sur les dons qui vont être consacrés, et il y a une épiclèse, c'est-à-dire un appel au Saint-Esprit pour que, dans la liturgie ancienne, on disait « Vieni sanctificator », parce que c'est le rôle propre du Saint-Esprit de sanctifier. Et ce Vieni sanctificator rappelle la venue du Saint-Esprit sur les dons. Maintenant, on impose les mains sur les dons pour le signifier, pour bien dire que les dons du pain et du vin vont être transformés dans le corps et dans le sang du Christ. Là aussi, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et les paroles de Jésus sont prononcées sous le souffle du Saint-Esprit, et il y a transformation réelle du pain dans le corps du Seigneur et du vin dans le sang du Seigneur. Et lorsque l'on communie, on est sous le souffle de l'Esprit. On devient feu, disent les Pères, feu du Saint-Esprit. C'est un des noms du Saint-Esprit. Donc la liturgie est pleine de Saint-Esprit. Donc s'en éloigner, c'est empêcher notre âme d'avoir des nourritures substantielles. Déjà d'être ensemble, refaire lien, Le corps du Christ est plein de ligaments, et si je ne suis jamais dans ces ligaments, comment est-ce que je peux dire que je suis corps du Christ? Donc la messe dominicale n'est jamais optionnelle. Il faut absolument nourrir notre âme et entretenir ce lien profond que j'ai avec mes frères et sœurs, d'être député au culte divin, c'est-à-dire chanter ses louanges, l'écouter dans sa parole, lui rendre grâce, lui demander pardon s'il y a des péchés, et l'adorer. Tout cela fait partie du culte divin, et le Saint-Esprit est évidemment éminemment à l'œuvre dans ce sacrement de l'Eucharistie. Dans les autres sacrements, il y va de même, il y a toujours une présence du Saint-Esprit qui vient faire que les paroles sont dites au nom de Jésus-Christ, et ces paroles prennent forme par l'action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, disait le patriarche Ignace IV d'Antioche, eh bien, nos célébrations seraient vides.
Donc on vient à la messe pour rencontrer Jésus, mais il ne faut pas oublier l'Esprit-Saint, le laisser entrer dans notre cœur en entrant dans l'Église.
Et oui, et même quand on quitte sa demeure chez soi, il faudrait presque déjà chanter le Saint-Esprit, qu'il soit à l'œuvre dans notre cœur, pour bien écouter tout ce que Jésus va nous dire à travers le souffle qu'il nous donne, qui est celui de l'Esprit-Saint. Merci.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.